Mais ici, quand un homme s'est laissé surprendre par quelque faux bouclier spirituel, relever ou redresser un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même de peur que toi aussi ne sois tenté. Ici, dans ce passage de Galates 6, il y a une réalité explicite de l'accompagnement. Relever, redresser, quand quelqu'un s'est laissé surprendre, relever dans un esprit de douceur. Il y a déjà des choses qui sont très explicites. Et je voudrais commencer par souligner quelque chose qui n'est peut-être pas très évident. D'abord ce pluriel, le collectif bouclier spirituel, relevé. Et ensuite le singulier, prenant garde à toi-même. Autrement dit, le travail pastoral ici, de manière assez directe, est envisagé comme quelque chose de collectif. Comme d'ailleurs le ministère des anciens. Hein, on ne voit jamais dans le Nouveau Testament l'ancien tout seul. Pierre ou Jean, Pierre dit, moi qui suis ancien, avec vous. Hein, dans le Pierre 5. Et donc le ministère de l'ancien, qui est un ministère de surveillance, ou de prédication, d'exhortation, ou un ministère pastoral, qui fait paix. Ce ministère-là est un ministère collectif, vous êtes spirituel, mais prenons garde à toi-même. Hein, voilà donc une première chose. Deuxième chose que je note dans ce passage, c'est qu'il est dit relever un tel homme. Relever un tel homme. Dans cette expression, il y a pour moi toute la difficulté de la pratique pastorale. Parce que c'est un impératif, relever. Autrement dit, le pasteur est quelqu'un qui va faire celui qui souffre. Mais encore faut-il que celui qui souffre le veuille. Hein, relever. Hein. C'est quelqu'un, moi, j'ai avec Davidou, hein, quelqu'un qu'on connaît bien, j'ai apporté de la soupe au SDF en hiver, pendant toute la saison de l'hiver. Donc, même soir, on faisait de la bonne soupe. Eh bien, les SDF ne voulaient pas sortir de ce pays. Donc, pour le père Pélon, il y a là un programme qui est très difficile. Par contre, ce qui est notre responsabilité, c'est le père Pélon dans un esprit de douceur. Et puis, donc, dans un esprit de douceur, parle de la manière, et prenant garde à toi-même, parle de la vigilance pour soi, de peur que toi aussi tu ne sois tenté, autrement dit, la difficulté dans laquelle la personne qui est en difficulté elle nous concerne aussi, et on est tous concernés par les difficultés. En vrac, Socrate se disait accoucheur d'âme, intéressant cette expression, accoucheur d'âme. Antiphon disait ici on soigne avec les mots. Et dans ce que nous avons vu tout à l'heure de la relation d'aide, avec écoute, conversion, carnage, on voit déjà l'essentiel de la vertu du dialogue. Soigner avec les mots, comme dit Antiphon, c'est très important. Soigner avec les mots, c'est permettre à quelqu'un de parler, permettre à quelqu'un d'exprimer ce qu'il est, permettre à quelqu'un d'exister et de prendre conscience de ce qu'il est avec l'aide de ce qu'il est en train de dire. Et c'est pour ça qu'accompagner n'est pas proposer des solutions. Ça veut dire qu'on n'en propose pas si la présence présente, mais finalement l'accompagner est le seul à pouvoir décider de faire quelque chose. Accompagner, c'est amener la personne à s'assumer comme responsable. C'est pour ça que, par exemple, mon bureau, on pourra y passer d'ailleurs. Mon bureau est dans un centre médical dans lequel il y a généraliste, cardiologue, dentiste, infirmier, prothésiste, kiné, médecin du sport, nutritionniste, thérapeute, sexologue, etc. Donc, et moi j'ai mis accompagnement de quelqu'un. J'ai une plaque. Et l'idée c'est d'accompagner. L'idée c'est d'accompagner, c'est-à-dire qu'en fait que je sois moi avec la personne et avec Dieu. C'est un peu un visuel qui est un petit peu comme celui que tu as pris, mais où il y a deux personnes et qui sont au parcours de différentes pistes. Et on va aller sur ces pistes-là et on va aller ensemble. C'est ça que je veux dire. L'accompagnement, c'est le service après-vente de l'Église. Le service après-vente de l'Église, autrement dit, dans l'Église, il devrait y avoir des personnes qui ont compris en fait comment est-ce qu'on peut aller bien, et grâce à ces personnes, que de bonnes choses puissent se faire et que dans l'Église, tout le monde va bien. Et que parce que dans l'Église, tout le monde va bien, la société nous regarde et nous dit, mais comment vous faites chez vous? Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de... etc. Qu'est-ce qui se passe? Et que la société vienne demander à l'Église ce qu'il faut pour ça. J'ai vu un reportage sur Antenne 2, je ne serai pas le daté, sur les adventistes. Dans une ville dont j'ai un peu oublié le nom, mais qui est Linda, qui est en Californie, et ils ont repéré que la moyenne du monde à 114 ans est une adventiste, et que chez les adventistes, ils vivent très longtemps, ils vivent en bonne forme. Il y a par exemple quelqu'un qui a été médecin, et qui a 90 ans, et qui aide aux médecins pour les chirurgies à cœur ouvert. Et qui a 90 ans, va à la clinique, et qui pratique et qui fait de la chirurgie. Hein, et on voit une mamie de 102 ans, et qui fait de la culture physique, du vélo d'appartement, et qui fait de la musculation légère, à 102 ans. Voilà. Et ici, il y a pour moi quelque chose de fantastique, où les adventistes ont compris par rapport à l'alimentation, par rapport à l'activité au repos. Vous avez vu ce reportage. Hein,
donc, les adventistes, donc, ils sont très attachés à la
vie. Voilà. Vous avez vu le reportage.
J'ai fait partie de la vie.
Donc, le service d'église va pouvoir. C'est que la réalité du bien-être est loin d'être vue comme quelque chose de normal. Et elle n'est pas enseignée comme ça. Donc, le fait qu'on l'Église, il y a autant de personnes qui souffrent finalement dans la société, alors ce qui fait que la société n'a pas forcément vu la réalité. Cette notion de bienfait du dialogue, on le trouve dans cette expression de Proverbe 12-18, la langue des sages et santé, on va s'en braquer en un peu, et donc je mets encore en vrac des expressions à chacun de prendre son chemin et de trouver ce qu'elle doit trouver. Il faut pratiquer pour connaître, si je ne fais pas, je ne sais pas bien. Charité bien en commence par soi-même, autrement dit, nous qui nous proposons des autres, il faut vraiment qu'on soit cohérent pour soi-même, pour aider les autres. Ce que je propose sont des pistes et non pas des méthodes exhaustives. Hein, ce que j'ai compris est quelque chose qui est en devenir aussi. Hein, et vous allez justement m'aider avec votre regard à voir ce qu'il en est. On est appelé à vivre, on ne comprend pas tout. Hein, Corinthiens 13,9 dit que nous connaissons des parties. Ce que je propose est une compréhension générale qui est adaptée. Comme on dit, les grandes lignes qu'on va aller voir sont bien claires. Par exemple, l'accompagnant doit être droit dans ses bottes, clair avec lui, sinon ça peut difficilement marcher, pas une compréhension générale, mais elle est adaptée parce que si on prend trop, mettons, de manière trop carrée, alors il y a un moment donné où on ne pourra plus accompagner, alors que peut-être que, au contraire, si on adapte bien, on comprendra que c'est surtout là où il faut qu'on accompagne, parce que c'est surtout là où Dieu permet qu'on expérimente quelque chose de difficile, de douloureux, mais il est tout à fait important pour des personnes où on aura peut-être des spécificités qui seront peut-être le véritable cadeau pour les gens qui nous tiendront à faire. L'idée est donc de rendre le souffrant adulte, autonome. L'idée c'est de vivre l'action de vivre l'entretien. L'idée c'est la parole de Dieu plutôt que d'homme. Et l'idée c'est que le problème est chez celui qui souffre. Alors là, il y a certainement des choses qui retentissent chez vous, plus dans une expression que dans une autre. Si c'est le cas, notez-le, et puis on en parlera dans le détail. Mais par exemple, tout à l'heure dans la présentation, j'ai entendu que Christiane, tu parlais plutôt de l'expression « j'étouffe ». Et si, par exemple, on voit qu'on considère que le problème est chez moi autant que chez celui qui souffre, alors qu'il y a quelque chose qui alimente le fait d'étouffer, et je note ça comme piste pour qu'on en parle. Qu'on sache identifier ce qui fait qu'on étouffe quand on a par exemple 5, 6, 7 entretiens par jour, et qu'à la fin on dit oh là là, j'en peux plus parce que j'ai trop porté. Voilà, alors ça, il faudrait qu'on en parle. En attendant, le travail de l'accompagnant, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Dieu est le vrai pasteur, et notre activité est une activité délégée. Dans un sens, nous sommes à l'image de Dieu, et noter peut-être simplement cette réalité. Nous sommes à l'image de Dieu, pourquoi? Comment? Nous sommes à l'image de Dieu parce qu'il nous a créé à son image, mais comment? En fait, bien pour moi, nous sommes à l'image de Dieu, comme dit Romains 8, 29, nous avons été prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Autrement dit, c'est quelque chose de mystérieux, mais pour moi, de toute éternité, Dieu a pensé devenir humain. Et nous sommes créés à son image. Mais le problème de la Genèse qui s'est posé à Moïse, c'est que nous avons été créés à son image avant que Dieu s'incarne. Et donc, nous sommes complètement à son image, Dieu est un vrai pasteur, et dans la relation pastorale, il y a, comment dire, tout ce qui est de nature à rendre la vie fantastique. Autrement dit, je peux vous choquer, mais dans l'éternité, je ne suis pas sûr que la difficulté ne soit plus là. Mais par contre, nous serons continuellement les uns avec les autres dans une forme de relation pastorale dans laquelle il y aura tout. C'est ça la complétude ou la perfection. Dieu n'est pas là pour enlever la difficulté, Dieu est là. Dieu ne nous place pas sans difficulté, Dieu nous place dans une relation qui est difficile, mais dans laquelle nous avons besoin les uns des autres pour que la relation soit complète et efficace. Alors, voilà ce qui est d'un côté Dieu le vrai pasteur et de l'autre côté l'activité des gens. Le ministère pastoral, on en a un peu parlé dans ces généralités sur Daniel 4, elle n'a de sens que s'il y a appel. Autrement dit, moi, je mets de crédibilité que si je suis appelé par Dieu. C'est pas parce qu'en fait les gens disent on va donner Margot parce que ça se passera bien. Non, c'est pas ça ma crédibilité. Ma crédibilité, c'est moi de répondre à l'appel de Dieu. Être responsable, c'est répondre. Pour être responsable, il faut avoir entendu, et il faut répondre. Il faut qu'à un moment donné, je me place, moi, comme étant quelqu'un qui dit oui, effectivement, je souhaite bien être disponible pour Dieu et répondre à quelqu'un. C'est ça qui me donnera ma capacité. 1 Corinthiens 3, 5 dit « Notre capacité vient de Dieu ». Et Dieu nous donne la capacité de faire ce qu'il nous demande. Alors ça, c'est fondamental. Dieu ne me donne pas la capacité de savoir ce qui réussit. Ecclésiaste 11, 2, c'est la semence. Mais tu ne sais pas ce qui réussira, si c'est ceci ou cela, ou les deux. Autrement dit, moi je suis capable de faire quelque chose, et ce que je vais faire, je le fais par appel de Dieu. Et quelque part, si je rentre dans le résultat, et vous verrez que dans tout ce qu'on fera ensemble, on va beaucoup en parler, si je rentre dans le résultat, je vais faire beaucoup de mal. Je ne sais pas ce qui est possible. Autrement, je vous dis ce que j'ai compris. Donc en fait, j'ai entendu des choses de la part du Seigneur. Et on est en commun, et à vous de prendre ce que vous avez à prendre. Mais si vous me dites par exemple que cette formation ne me convient pas, moi je suis trop bien. Parce que c'est pas mon affaire, en fait. C'est pas ma responsabilité qu'elle vous convienne. Moi, ma responsabilité, c'est de vous donner ce que j'ai compris. Et donc, c'est ça l'appel, c'est ça la capacité. En fait. Et si on reste sur ce rocher, en fait, de faire ce que nous demandons, alors on y est très bien. Quelquefois, on se sent un peu seul. Soit on n'est pas toujours compris dans cette position-là, mais on y est très bien. Parce que il faut faire aussi attention à ne pas être finalement dans sa tour d'ivoire, dans l'orgueil, en disant nous on a tout compris et les autres nous critiquent, on a compris. Non. Mais ma capacité vient de Dieu et je fais ce que Dieu me demande. Ça ne veut pas dire que ce que les autres vont me dire ne soit pas inutile, inopportun. C'est pas inopportun. Mais je l'entends, mais ce que j'entends va m'aider, moi, à être encore plus sur le rocher. Et bien sûr, quand je suis sur le rocher de la parole de Dieu, je suis amené, moi, à être en relation avec l'autre, à l'écoute de l'autre. Là, ça marche. À être dans l'amour, à être dans la relation. Ma légitimité vient donc de mon appel. La reconnaissance de l'autre, elle est, elle n'est pas. Mais moi, je n'ai pas besoin de la reconnaissance de l'autre pour être libre. Par contre, c'est vrai que si, par exemple, dans le milieu ecclésiastique que je fréquente, on dit, on ne connaît pas les pasteurs, on ne sait pas qui est Stéphane Prévost. Alors là, il y a une difficulté. Je ne dirais pas qu'il y a un obstacle rédhibitoire contre les gens qui puissent rien faire, mais il y a un problème. Si on peut dire, oui, on sait que telle et telle et telle personne font du travail pastoral, alors là, on peut les recommander. Après, ça va pas. Voilà, hein, c'est à la responsabilité de chacun. Mais la reconnaissance n'est pas quelque chose d'indispensable pour rentrer dans ce ministère. Le parcours, par contre, c'est sûr que plus on fait du parcours, plus notre regard sur le ministère pastoral est un regard précis et un regard sûr, un regard qui nous posera. Et à la fin de la première semaine, je voudrais que ce soit bien clair. On peut avoir un regard sur notre position, sur nos luttes et sur notre pratique. Dire j'ai ce qu'il faut pour proposer à mon compagnon de forme. La personne veut, elle ne veut pas. C'est pas moi. Mais j'ai un appel, j'ai des outils et j'ai des perspectives très 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 posées qui vont faire que ce que je vais faire va être intéressant. Autre chose dans l'accompagnement, c'est le contrat. Le contrat, ça c'est la psychologie qui me l'a appris, c'est Jacques Pujol. Qu'est-ce que ça veut dire entrer en contrat? Ça veut dire que, comme le disait Jean-Paul tout à l'heure, si je rentre en relation avec mon voisin, je dis bonjour, comment ça va, je suis content de vous voir, etc. Là, il n'y a pas de contrat. Là, on rentre dans une relation qui est paisible, qui est agréable, qui est avec certaines douleurs. Mais il n'y a pas de contrat si on n'est pas là pour parler du problème particulier. Au contraire, si à un moment donné, cette personne dit « Ah mais, ma voisine m'a dit que vous faisiez un travail, vous aidez les gens, ça m'intéresserait bien qu'on puisse résoudre ce problème. » Alors là, il signe le contrat. Et on va dire qu'on va en parler. Et là, de manière inopinée, de manière opportune, de manière ponctuelle, bien le contrat évolue. Ce contrat, c'est finalement l'acceptation de l'autre qu'on parle de son problème. Quand le problème est posé, alors on peut en parler et on peut faire du chemin avec l'intervention divine et avec le secret d'un peu de contrat. L'intervention divine, elle est essentielle, l'action de Dieu sur la souffrance. Autrement dit, je ne sais pas, comme on l'a déjà dit, ce qui va réussir. Mais je sais que quand Dieu voudra agir, il agira. Parce qu'il peut agir. Parce que en fait, le mystère, Dieu est souverain, et ce qu'il voudra faire comprendre aux souffrants, quel que soit son état ou sa maladie, il peut comprendre. J'ai accompagné une personne qui avait des TOC, du trouble obsessionnel compulsif, et qui avait consulté un psychiatre pendant 3 ans. Bon, rien ne s'était passé. Nous, on a fait un chemin pendant un an et demi. Et au bout d'un an et demi, cette personne peut dire qu'elle est à peu près sortie de cet ordre. Ça ne veut pas dire que le psychiatre est un mauvais travail. Ça ne veut pas dire que le psychiatre, comment dire, peut-être que le travail du psychiatre a opéré après. Mais en tout cas, il me semble que souvent, la pratique psychiatrique est limitée parce qu'elle ne rentre pas dans les réalités spirituelles. Et nous sommes rentrés dans des réalités spirituelles que je connaissais parce que je connaissais le milieu ecclésiastique dans lequel évoluent ces personnes. Et des choses ont été posées et puis sortir de ces. Une expression que je tiens du cours de John Van Den Hogen, qui est un pasteur baptiste charismatique, c'est dépouiller les Égyptiens. Ce qu'il faut, même pour répondre à l'appel de Dieu, c'est de la même manière que les fils d'Israël ont quitté l'Égypte et ont dépouillé les Égyptiens quand ils sont partis, alors de la même manière, sachons être intelligents et sachons finalement prendre dans notre société, de la part des laïcs et même des personnes athées, sachons prendre ce qui est juste. Ne soyons pas stupides et sectaires, mais sachons écouter et sachons finalement tirer profit de toutes ces choses-là. Quelles sont, pour l'accompagnant, les questions fondamentales auxquelles il faut pouvoir répondre ? Eh bien d'abord, je dirais que c'est quelle est la conception de la personne et du fonctionnement humain. Autrement dit, ce soir on verra par exemple des perspectives sur le bonheur. Si jamais quelqu'un vient à vous, je vais plutôt vous raconter ce que vous racontez à ce moment. Il est allé voir un psychiatre et lui il a des problèmes avec sa femme. Il voit le psychiatre, il rentre dans son cabinet et il a dit au psychiatre, voilà, permettez-moi de vous poser une question. Il a dit, comment est-ce que ça va avec votre femme ? Et le psychiatre a dit, mais là, vous me posez une question qui relève de mon intimité, et donc je ne vous y répondrai pas. Et le souffrant lui a dit, eh bien, merci beaucoup, docteur, c'est ce que je voulais savoir. Voilà, je vais vous dire au revoir. Et je crois qu'une des grandes qualités de l'accompagnant pastoral, c'est son humanité. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai compris de la personne et du fonctionnement humain, je me l'applique à moi-même, et quand quelqu'un me pose une question qui peut paraître anodine sur ce que je lis, si je n'y réponds pas, alors je suis distingué. Et cette question, cette réponse à comment dire, cette connaissance de la conception de la personne et du fonctionnement humain, je peux l'avoir. Ce qui ne veut pas dire que les choses ne soient pas difficiles. Autrement dit, je peux très bien avoir une clé pour ouvrir une porte, mais ça ne veut pas dire que j'y passe facilement, mais j'ai la clé. Et pour moi, accompagner, c'est avoir des clés. Et justement, le temps qu'on passera ensemble sera là pour qu'on puisse, avec courage et fermeté, parler de clés. La conception de la personne et du fonctionnement humain, c'est pas forcément quelque chose de compliqué. Par exemple, selon le 4-12, est-ce qu'il faut absolument déterminer quelle est la différence entre l'âme et l'esprit ? Le 4-12 dit que la parole de Dieu atteint, va jusque à la séparation entre l'âme et l'esprit. Très bien. On sait donc qu'il y a une séparation entre l'âme et l'esprit. Mais c'est quoi la différence entre l'âme et l'esprit ? Bon. Pour moi, j'ai une petite idée, si vous voulez, on en parlera. Mais dans cette question-là, quelle est la conception de la personne et du fonctionnement humain ? Je ne crois pas qu'il faille forcément y répondre de manière absolue, et notamment avec quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui souffre a besoin de sortir de ses souffrances. Elle n'a pas besoin de comprendre, en fait, quelle est comment est-ce que Dieu a fait l'homme. Et pour moi, ça reste toujours un mystère. Comment est-ce que Dieu a fait l'homme. Autre question qu'il faut répondre, qu'est-ce qui pousse une personne à agir et à demander de l'aide ? Et là, je ferai deux réponses. La première, toute simple, ce qui pousse une personne à agir, c'est sa souffrance. Quand on a assez de souffrir, on agit. Et puis une deuxième réponse, un peu plus compliquée, c'est pourquoi est-ce que Nebuchadnezzar, Daniel 4, a élevé ses yeux vers les cieux. A l'inverse, on voit dans Jean 5, 44, que Jésus reproche aux Juifs de. Il dit, vous ne pouvez pas comprendre parce qu'en fait, vous recherchez la gloire des hommes. Jean 5. Il dit, mais si vous recherchez la gloire des hommes, alors, en quelque sorte, vous vous empêchez de comprendre ce qu'il a dit. Si vous voulez, par exemple, savoir quel est le régime efficace que vous trouverez chez les nutritionnistes de votre âme actuelle, alors peut-être que vous ne pourrez pas entendre de la part de l'Esprit de Dieu comment bien manger. Et il est fait bizarre, il est fait ses yeux vers le ciel. Et donc c'est important pour nous à un moment donné de savoir ce qui pousse une personne. Et de pouvoir dire à une personne, hop hop. C'est ça qui est le problème, c'est la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut entendre. Il faut se mettre dans une disponibilité qui va faire que effectivement Dieu va faire. Quelles sont les perspectives pour accompagner une personne qui demande de l'aide? Ces perspectives-là, elles sont toutes simples. Ce sont celles qui figurent sur le document que vous avez reçu. Il y a cette espèce de trois volets là. Je vous dis que la formation se basait sur trois choses. La première chose, c'est de discerner ses souffrances. La deuxième chose, c'est de discerner sa responsabilité. La troisième chose, c'est de discerner la volonté de Dieu dans le quoi et le comment faire. Donc, c'est pas tellement compliqué d'accueillir quelqu'un dans l'entretien pastoral ou dans la relation pastorale. On va aider quelqu'un à prendre conscience de sa souffrance. Ah, tu souffres parce que tu es seul? D'accord. Et quand tu es seul, c'est quoi qui te fait souffrir? Parce que moi, quand je suis seul, je ne souffre pas. C'est quoi qui te fait souffrir? Et quand je suis seul, je souffre parce que je me dis personne ne m'aime. Je souffre parce que je dis je suis inutile. Je souffre parce que je dis, mais je ne sais pas quoi faire en fait. Je souffre parce que je pense aux gens qui me disent, mais un tel ne l'invitez pas parce que qu'est-ce qu'il est collant. Et donc là, vous voyez que les causes de souffrance sont variées. En fait, je souffre parce que je ne veux pas, moi, avoir affaire à telle ou telle personne. C'est trop lourd, hein, c'est trop. Donc, les raisons de la souffrance qui sont derrière la souffrance de la solitude sont complexes et variées et quelquefois interdépendantes. Donc à moi de les révéler, c'est ça mes perspectives. Quel est le sens que je donne à la vie, à la mort, à l'amour, à la souffrance? Lors de son mariage, un jour, j'ai reçu une dame qui avait des problèmes vraiment importants, elle avait été. Bon, son mari, à la naissance du deuxième, et puis son enfant, son adolescent, avait fait les pires des choses, et elle vient le voir. Je lui ai dit, elle me dit quel sens donner à tout ça. Et je lui ai dit, je ne le connais pas. Mais je sais que dans la main de Dieu, il y a un sens. Si on ne le connaît pas, on peut quand même affirmer qu'il y a un sens, et que Dieu tirera profit. Et quelques mois après, elle m'a dit que cette qualité-là l'avait beaucoup encouragée et portée dans ses difficultés. Autrement dit, affirmer qu'en Dieu qui est souverain, tout a un sens. Quand j'ai eu 20 ans, j'étais une jeunesse très heureuse, et parents, sœurs, deux choses, voyager, musique, du sport, culture, etc. Et quand j'ai quitté ma famille, j'ai eu ce choc, en fait, de quitter ce cocon familial très très derrière. Et chaque fois que je quittais la famille, je pleurais. J'avais 20 ans, j'étais un garçon, et je pleurais. Et je me suis dit, voilà, pour moi, c'est peut-être partie des choses qui m'ont fait du bien, justement, le sens de la vie, plutôt le bonheur auquel je veux accéder, je veux pouvoir y accéder même si je suis aveugle, sourd, muet, handicapé. Donc j'ai mis la barre assez haute, en fait. Mais c'est ça qui, peut-être certainement aujourd'hui, m'a aidé à poser des choses et qui fait que je ne suis pas facilement déstabilisé. Parce que j'ai mis des repères, un référentiel qui me permet aujourd'hui de trouver des solutions spirituellement valables dans ma vie. Et mon rôle d'accompagnant, eh bien le fait de permettre à quelqu'un d'entendre la parole de Dieu et d'être avec Dieu dans ses souffrances. Comment est-ce que je peux estimer qu'elle est efficace? Eh bien dans la mesure où je mets en pratique, justement. Quelles sont mes limites? Alors, habituellement je fais répondre les gens, mais là on est dans quelque chose d'assez magistral. Mes limites sont celles que Dieu me donne dans mon accompagnement. Autrement dit, si je suis avec quelqu'un qui est schizophrène et déclaré par la médecine comme non guérissable, c'est pas la même affaire en fait. Moi je suis dans la pratique pastorale, dans le ministère selon Dieu, dans lequel Dieu m'amène à la vie. Et peut-être que cette personne-là, je vais la voir qu'une fois, peut-être qu'au bout d'une fois il va me maudire en disant mais vous finalement, vous ne m'apportez pas plus de solutions que le médecin. La différence du médecin, c'est que moi, avec cette personne, c'est une idée dans les meilleurs jours, nous avons prié ensemble en disant, Seigneur, nous ne savons pas dans quel chemin nous allons, mais nous voulons y aller avec toi, nous sommes à l'écoute. Alors là, il y a un chemin, cette personne croyante, elle est impliquée, donc là, quelque chose peut se passer. Quelle connaissance dois-je avoir pour accompagner quelqu'un, quelle qualité? Bien. Les connaissances que Dieu me donne. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. J'ai commencé ce travail pastoral, on va dire, il y a une quinzaine d'années environ, hein, de manière systématique, en proposant des rendez-vous aux gens. Alors, c'est sûr que les connaissances que j'avais il y a 15 ans ne sont pas les connaissances que j'ai maintenant. Mais est-ce que ça m'a empêché il y a 15 ans de commencer? Non. Je crois qu'il faut commencer avec les connaissances que Dieu me donne. On va rentrer maintenant dans quelque chose de plus précis. Les qualités d'accompagnement. D'abord, dans 1 Timothée 3, il est dit que si quelqu'un aspire à entrer dans ce ministère d'enseignement, dans la surveillance, alors il est désiré. Autrement dit, une première qualité d'accompagnement, c'est de désirer faire quelque chose d'efficace, désirer. C'est important d'être disponible. Deuxième qualité qu'on a vue tout à l'heure dans Galates 6, verset 1, mais aussi dans Actes 20, 28, c'est de prendre garde à soi. Autrement dit, la qualité de l'accompagnement sera à la hauteur du soin que j'apporterai à moi-même. Hygiène de vie, hygiène spirituelle, hygiène relationnelle, etc. Ensuite, les motivations de ce que je propose. 1 Pierre 5, verset 2, à l'égard de ceux qui paissent, de ceux qui font un travail pastoral, père, pasteur, c'est le même mot, il est dit qu'il ne faut pas dominer. Il faut le faire avec une bonne motivation, de bon gré. Autrement dit, il ne faut pas le faire parce qu'on y est obligé. Il faut le faire de bon gré. Il ne faut pas le faire pour être au-dessus des autres. Il faut le faire sans. Dans Jean 10, le Seigneur Jésus fustige les pharisiens. Jean 10, hein, vous savez, moi je suis la porte, etc. N'est pas des recommandations faites aux disciples, mais c'est un discours fait aux pharisiens. Et donc, pour bien prendre le troupeau, il faut entrer par la porte. Il faut faire passer les brebis et les agneaux par la porte. Et Jésus dit, moi je suis là. Il y a des bons instruments. Dans Zacharie 11, 15, il y a le bâton et la houlette, hein, les instruments du pasteur, hein, le bâton qui a contre le loup, comme on dit, cette radicalité contre les gens qui font du mal et contre les choses qui sont fausses, qui ne sont pas selon la vérité de Dieu. Et puis là où il y animal hein, qu'on produit pour les regrouper, pour les protéger de s'égarer, avoir de bons instincts. L'accompagnant, Jean 10, verset 11, met sa vie pour ses produits. Jean 10, verset 14, il connaît les siens. Jérémie 3, 15, il les comprend. Jean 10, verset 14, il est connu des siens. Voilà un ensemble de qualités. On passera donc dans la semaine des jeux de rôle. Hein, ensemble, on pourra accompagner l'accompagnant, on verra comment ça peut se faire, des choses que vous connaissez dans un sens. Et on verra comment est-ce qu'on peut être connu, comment est-ce qu'on peut répondre simplement à des questions. Il y en a plusieurs, Michel 5, verset 5, Pierre 5, verset 1 et 2. Intéressant de voir comment le pluriel est utilisé. L'accompagnement se fait dans la collégialité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que peut-être que dans une région donnée, travailler ensemble, savoir travailler ensemble, savoir en parler ensemble, savoir finalement se connaître, se recommander. Dans les idées 34, il cherche, il ramène, il bande ce qui est laissé, il fortifie. Il faut noter que, vous savez, les trois grands prophètes, que les juifs appellent les prophètes postérieurs, ceux qui ont prophétisé dans un sens quand Dieu a décidé qu'Israël serait transporté, le prophète postérieur. Le prophète antérieur, c'est Josué, juge, un de Samuel, un de roi. Nous, on n'avait pas de prophète, mais les juifs, ils appellent les prophètes. Prophète postérieur, ces trois grands prophètes, qu'est-ce qu'ils ont comme différence? Ésaïe a prophétisé avant la transportation. Jérémie prophétise pendant, Ézéchiel prophétise après. C'est dans Jérémie qu'on voit que le travail pastoral est le plus intense. Et que toutes les difficultés de Jérémie apparaissent. On verra ce verset, je ne me suis pas hâté de cesser d'être pasteur. Je le répète, hein, je ne me suis pas hâté de cesser d'être pasteur. Toute la difficulté pastorale se trouve dans Jérémie. Dans Ézéchiel, par contre, le peuple est déjà transporté, il n'y a plus de pasteur, et c'est dans Ézéchiel 34 que l'Éternel dit, j'en veux à ces pasteurs. Autrement dit, la cause est réglée, dans le peuple, il n'y a pas eu de pasteur, et Dieu déclare en fait la faillite du fonctionnement. Dans Ésaïe 40, donc le pasteur, père, rassemble, porte, conduit doucement. Dans Michée 5:5, acte 28, des versets qu'on a déjà cités, il est associé à l'autorité. Autrement dit, c'est important de faire un travail collectif, un travail compte de différentes réalités. Moi qui fais un travail pastoral à Aix, par exemple, quand quelqu'un fréquente une église qui n'est pas celle dans laquelle je me trouve, je fais attention justement à tenir compte de la vie ecclésiastique de la personne, du rapport à l'autorité. Il y a des fois des pasteurs qui m'ont dit « Est-ce que je peux t'envoyer quelqu'un ?» D'autres fois, il y a des gens qui ont une doctrine qui n'est pas fondamentalement la même, je pense, au monde charismatique. Qu'est-ce qu'on fait? Je fais attention. À ne pas peut-être tout mettre par terre. Une personne me dit, par exemple, j'ai un ministère de prophète. Le problème, c'est que personne n'a reconnu mon ministère de prophète. Alors, moi, je n'ai pas commencé à demander à la personne qu'est-ce que c'était qu'un prophète et qu'est-ce que c'était qu'un ministère de prophète. Non, j'ai commencé à considérer le problème. Donc c'est ça, respecter un peu, être associé à l'autorité et traiter les problèmes et non pas les faux problèmes. Le faux problème, c'est le ministère prophétique. C'est-à-dire que cette personne-là se trouve dans le ministère prophétique. Mais son problème n'est pas là. Son problème, il est si elle souffre dans ce ministère qu'elle a, ce n'est pas à cause de la définition du ministère prophétique. C'est à cause de son face-à-face avec Dieu et de la sainteté, peut-être de laquelle, dans laquelle elle n'arrive pas à rentrer, hein, comme dit Hébreux 13, poursuivez la sainteté sur laquelle nous verrons Seigneur. Nous avons la sainteté. Mais est-ce que nous savons la mettre en œuvre? Est-ce que nous savons tirer profit de ce face-à-face? Qualité d'accompagnant, pratiquer pour comprendre sur les choses dont on a déjà parlé, mais dans 2 Pierre 1:8, il y a cette expression au verset 5, il est dit « Joignez à votre foi cette chose, 4 plus 3. Hein, la vertu, la connaissance, la tempérance, etc. L'affection fraternelle, l'amour, 7. Et comme si, en fait, c'est bien de vivre en la foi. Mais ce qu'il faut, c'est pratiquer les choses. Et au verset 8, il dit, mais si ces choses sont en vous et y abondent, elles feront que vous ne serez pas stérile pour ce qui concerne la connaissance de Jésus-Christ. Autrement dit, pratiquer les choses travaille à la connaissance de Jésus-Christ. Autrement dit, pratiquer m'aide. Ne pas juger des résultats, c'est quelque chose. Les défauts de l'accompagnement, je vais les mettre tous ensemble. On va les voir de manière un peu générale. L'accompagnant peut avoir de mauvaises motivations. Moi, je suis accompagnant parce que, en fait, j'en ai assez d'être utile. Moi, il faut vraiment que je sois considéré comme quelqu'un. Je suis accompagnant, on l'a vu, parce que Dieu m'appelle. Et si Dieu m'appelle à ne rien faire, je fais rien. Il faut que je trouve tout mon bonheur et toute ma joie. Des fois, c'est de ne pas prendre dans la moi-même. Dieu nous a fait largement responsables. Et c'est pour ça qu'on verra souveraineté de Dieu et responsabilité de l'homme jeudi soir. Notre conscience peut être aiguisée, peut être pure, hein, mais elle peut être souillée, elle peut être cautérisée. Cautérisée, c'est qu'il n'y a plus de vie. Et donc, je crois que dans ce temps qu'on va passer ensemble, j'ai besoin de votre regard. Et vous avez besoin de mon regard. Et moi, quand je vais vous voir dans une mauvaise position, alors je vais vous épargner. Hein, c'est un contrat qu'on a passé ensemble. Travail, on est là pour travailler. Mais il faut que vous m'épargniez. Hein, qu'on puisse avoir une vraie collaboration pour que l'on puisse entendre là où on pense éventuellement qu'il y a des défauts. Et là, on se fera beaucoup de bien. Parmi les défauts, de manière générale, le défaut, c'est le manque de maturité. Dans les derniers versets de Paul 5, nous sommes appelés à être des hommes parfaits, on dirait télos, on trouve télos dans télescope, hein, et télos veut dire complet. Autrement dit, être parfait, c'est être, comme dit la semeur, spirituellement à lui. Autrement dit, c'est avoir un bagage. Avoir compris les choses, être complet. Et donc, il est dit que dans Hébreux 5,14, que les hommes faits ont par le fait de l'habitude, parce qu'ils s'y sont habitués, les sens exercés à discerner le bien et le mal. Et on dit, on va travailler ensemble tout ça. Et donc, il y a une maturité spirituelle. Le ministère donné, le ministère général donné à l'Église dans Ephésiens. C'est un ministère qui va amener, Ephésiens 4, 13, les personnes à être faites, parfaites, complètes, spirituellement adultes. Quand je ne suis pas spirituellement adulte, alors il y a un ensemble de choses qui ressortent. J'ai noté la concentration vers le soi. Autrement dit, tout de suite, dès que ça va être fini, je vais dire, alors, ça s'est bien passé, comment vous avez trouvé? Est-ce que ça va? Mais en fait, c'est moi qui suis inquiet quand je vais le dire. Alors que de tout ça, moi je sais que ça c'est important. Mais donc j'aurai un regard vers vous en vous demandant si ça va, parce que vous aurez entendu un ensemble d'informations, vous serez peut-être, vous aurez envie qu'on en parle et ça sera pas le moment. Donc vous serez peut-être un peu, il y aura un long dégage d'envie de dire des choses et puis on aura du temps. Et donc il faudra un peu ouvrir la porte à un dialogue. Ça, c'est pas une concentration. Si par exemple, à la fin, vous êtes quatre devant moi et Christiane va parler à Hélène, etc., ou inversement, il y en aura deux à deux qui parleront, et moi je vais me trouver tout seul. Je vais dire, alors, c'est pas juste, heureusement qu'il y a Charles là, je vais pouvoir parler à Charles. Ça, c'est la concentration de soi. Hein? Et donc, c'est une vraie clé, ça. C'est une vraie clé. Et identifier, c'est déjà se permettre d'en sortir. Mais le problème, c'est que dans les églises, la médiocrité spirituelle, c'est la norme. C'est normal d'être concentré vers le soi. Et peut-être que je suis un peu sévère, mais voilà, je ne pense pas l'être trop. C'est pour ça que je me permets de le dire ouvertement. D'autres manques de maturité, c'est la rancune. Ce sont des préjugés. Ah oui, non, mais alors, l'armée du salut, ben, c'est des pensées émotionnelles trop présentes. Ah, mais par exemple, moi je suis. J'ai l'impression que voilà, avec quelqu'un comme Nicole, ça ne peut pas passer. Parce qu'en fait, elle m'écoute trop. Ça m'impressionne. Hein, les pensées émotionnelles m'arrêtaient quelque chose d'un peu immédiat. Les sentiments marquent l'intériorité. C'est pas des cinq. Préoccupé par l'opinion que nous avons de nous-mêmes. Être continuellement dans l'anxiété, être dépendant de mes parents ou de quelqu'un. Par exemple, moi, je fonctionne toujours en couple. Ce n'est pas une attitude normale, c'est d'être soi, et puis on est content d'être en couple. Si on est en couple, on est appelé à être soi et à vivre ce que nous avons à faire. On peut être dépendant. Aussi parce qu'on est en révolte contre quelqu'un. La manière la plus subtile de la dépendance, c'est la révolte. Après, je critique quelqu'un, donc je suis attaché à quelqu'un, mais de mauvaise manière. Par exemple, critiquer ses parents, c'est alimenter le pouvoir. Il ne faut pas critiquer ses parents. Bon, on a un peu d'âge, nous, ici, mais il faut expliquer aux jeunes qui ont des parents. Vous arrêtez de nous critiquer. Parce que tant qu'ils nous critiquent, ils sont révoltés contre nous, ils s'en sortent pas. Alors ça, c'est intéressant. Alors, d'autres signes de manque de maturité, c'est la vantardise, c'est l'intimidation, c'est la mauvaise humeur, c'est la paresse, hein, c'est la critique des autres. Et c'est surtout le manque de stabilité. Je trouve que la continuité est quelque chose que Dieu nous donne à vivre de manière assez forte, c'est vraiment un cap, la continuité. Moi, dans ma vie, j'ai eu une rupture, j'étais opticien, et je suis passé à autre chose. Mais je l'ai voulu comme une continuité. En fait, dans mon travail d'opticien, je parlais déjà beaucoup aux gens, mais je n'ai pas voulu ça comme rupture, ça m'a intéressé d'être opticien. Je voudrais vraiment comprendre que dans tout le passé que j'ai eu, Dieu m'a donné des qualités. Dieu m'a donné que ces qualités apparaissent et que je puisse finalement prendre conscience de quelque chose et de mettre ce qui se passe. Alors, la stabilité, c'est en fait de la maturité. La maturité. La maturité, au contraire, pour moi, c'est le fait d'aller vers les autres. Le fait de bien s'entendre avec eux, le fait d'être autonome, le fait de se fixer de bon but, d'être discret, de savoir définir l'importance, l'opportunité des choses, des actions, le fait de savoir s'adapter, et le fait d'être stable. Ces qualités, on va un peu les creuser avec quatre choses essentielles. première, c'est la maturité intellectuelle. La maturité intellectuelle, c'est pouvoir dire je pense, je crois, j'ai compris que. Hein, c'est d'avoir une pensée personnelle. Pour moi, par exemple, Dieu nous appelle à savoir des choses sur lui. C'est quoi votre conception de Dieu? C'est quoi votre conception de Dieu? Ça n'intéresse pas de savoir, en fait, ce qu'on dit ici ou là sur la fin. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous savez sur la fin. Et quand vous saurez quelque chose sur la fin, à ce moment-là, ça sera. C'est pas quelque chose que vous aurez appris, c'est quelque chose que vous aurez compris. Et se forger une personne, former une personne. Là, il y a l'investissement. Ça va prendre des décisions. Moi, je et peut-être heureusement, je ne sais plus qui a été le premier entretien pastoral que j'ai eu. C'est peut-être heureux que je sache plus qui c'était parce que je ne suis pas sûr qu'il se soit très très bien passé. Pour moi, peut-être qu'il s'est très bien passé, mais pour la personne, c'est pas sûr. Mais le contraire n'est pas sûr non plus. Simple, il faut prendre les décisions à un moment donné, il faut y aller. Hein? De la même manière que la première fois que je suis rentré dans un magasin d'optique, et quand j'ai vendu ma première paire de lunettes, hein, ben, on ne dit pas aux gens vous êtes la première personne. Par contre, je me souviens de la première personne que j'ai vendu des lentilles de contact. Et ça a été une catastrophe parce qu'on ne m'avait pas appris. Et mon patron ne m'avait pas non plus formé, et je savais certaines choses, mais pas tout, ce qui fait que je vais te donner des exemples un peu précis. En fait, il fallait. Mettre de la fluoxéine pour savoir si tout allait bien. Et j'appelle mon patron qui voulait contrôler les choses, tant mieux, et il voit l'œil de la personne avec la fluoxéine, il a dit c'est une vraie catastrophe, c'est comme si la lentille était sur l'œil. Je lui ai dit mais la lentille est sur l'œil. Il me dit mais il faut l'enlever la lentille, mais je lui ai dit mais personne ne m'a dit. Et là je me souviens de cette première personne en télécontact, c'était une femme. Très sympathique d'ailleurs, et elle a vu que j'étais son premier. Elle était ma première personne que j'ai quittée. Il faut savoir prendre des décisions, il ne faut pas être gêné. On prend des décisions, surtout si on le fait par appel de nous. Être souple, savoir changer la vie à la lumière de nouveaux éléments. Moi, dans cette formation que je vous propose, vous me rendrez service en disant mais ça ne tient pas la route au truc. Voilà, seulement je voulais être en tournant quand même, parce que j'ai un petit peu d'expérience. Donc, allons-y. Il faut assumer la responsabilité de ses actes. Hein? Romains 14, 22, c'est si quelqu'un hésite, alors il ne faut pas qu'il décide. Hein? Mais tu as de la foi, vas-y. Hein? Bienheureux est celui qui ne se juge pas par ce qu'il a fait. Romains 14, 22. Et tout ce qui n'est pas sur le principe de la foi, c'est Romains 14, 23. Une conviction liée à ce nom, le péché. Il faut qu'on assume la responsabilité de l'être. Être mieux intellectuellement parlant, c'est dire la vérité aux autres, même quand elle n'est pas acceptée. Alors je vous garantis que moi, je suis sensiblement dans cet état-là, cet état d'esprit, mais ce qui fait que je ne suis pas quelqu'un de commode. Parce que là, on a cette liberté, on se donne le droit d'être libre, mais on en profite de ça. S'inquiéter des problèmes, mais les analyser et réfléchir aux différentes solutions. Quand j'étais opticien, je disais il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est vrai. C'est vrai, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Et par exemple, j'ai fait des équipements qu'on appelle des invisuels, pour ce qu'on appelle l'amblyopie, c'est-à-dire cette faculté douloureuse qu'on a de ne pas bien y voir, ou d'avoir une acuité visuelle dans moins bonne que les autres, ce qui fait qu'on ne peut pas lire et qu'on est obligé d'avoir des équipements. Donc, en fait, on va avoir des solutions. Et quand on voit les solutions que Dieu nous donne, que Dieu nous appelle à prendre, c'est quelque chose d'important. Maturité intellectuelle, par en nous avant de voir chez les autres. Autrement dit, dit, c'est voilà, quelque chose d'important. Comment est-ce que j'ai pu m'appliquer quelque chose de personnel? Et puis, l'exemple de Daniel, on a vu dans ce qu'il a fait le lien avec le calendrier, et là on le voit au chapitre 1, verset 8, il a refusé de sacrifier aux dieux, avec des repas qu'il sacrifiait aux idoles, dans la nourriture qu'il a proposée. Et au chapitre 2, verset 14, on le voit capable de parler à Arioch, qui était maintenant le roi, et capable de dire pourquoi est-ce que cette parole du roi est si rigoureuse, il voulait faire tuer. Donc, une maturité intellectuelle, être capable de parler, même si on sait que c'est difficile. Maturité émotionnelle, c'est le deuxième volet. Intellectuelle, émotionnelle, et on va voir aussi sociale, spirituelle. Maturité intellectuelle, émotionnelle, accepter ses émotions sans s'effondrer. Par exemple, je vais vous donner un ou deux exemples au cours de. Quand, par exemple, une dame de 50 ans m'a raconté que sa fille a été abusée sexuellement dans un parc, et qu'elle m'a dit que comment les choses s'étaient passées, j'ai eu vraiment eu le vent de temps. C'était douloureux de l'entendre, mais il faut. Comment dire, si nous on s'effondre, si on se met à pleurer ou à gémir, alors que quelqu'un vient en pleurant et en gémissant, et vient pour que l'on soit en assise, si nous on s'effondre, ça ne marche pas. Quand par exemple j'ai reçu, on parle d'homosexualité dans notre formation, j'ai reçu un monsieur homosexuel qui a commencé par me dire qu'il n'avait jamais trompé sa femme, et puis après qu'il m'a finalement avoué qu'il avait fait une fellation à un homme, il me l'a dit en face de moi. C'est des choses qui ne sont pas faciles ni à entendre, ni à garder dans le rapport que j'ai à la personne qui est en face de moi. Mais c'est là où on a à apprendre à vivre les émotions douloureuses, apprendre à être touché, à être, on verra quand on parle des émotions, dans une forme de colère, dans une forme de crainte, dans une fébrilité, parce qu'on ne contrôle rien en fait. Avec quelqu'un comme ça, on peut très bien avoir peur d'être touché par cette personne. Vous voyez? Et donc, c'est ça la maturité émotionnelle. Apprendre à être soi-même et à dire oui, effectivement, je le vis et j'avance avec ça. Donc, accepter ses émotions, contrôler ses émotions. Autrement dit, c'est savoir ne pas en être dépendant, savoir ne pas se laisser submerger, exprimer ses émotions sans rien faire. Dire par exemple, oui en ce moment, mais je suis en colère. Et donc je vais reconnaître que je suis en colère, et même je suis en colère contre vous. Alors ça, on ne va peut-être pas le dire à la personne qui souffre, mais avoir une maturité émotionnelle, c'est dire je suis en colère contre quelqu'un et écoutez, on va faire un break. Je suis en colère contre quelqu'un, et parce que je suis en colère, je ne vais pas vous dire tout de suite ce que j'ai à vous dire. Mais dans l'entretien, savoir par exemple faire un break, prendre de la distance, je crois que j'ai atteint ma capacité émotionnelle à écouter. Alors, on va faire un break par exemple en faisant un test ou en parlant d'autre chose. On ne va pas dire forcément pourquoi à la personne qui souffre. Accepter la critique sans en être exagérément blessé. Ne pas fuir face aux situations difficiles. Et cet exemple de maturité émotionnelle, Joseph. M'a jugé, calomnié, prisonnier. Il ne nous est pas tellement dit le comment il vit, mais ce qu'on entend dans la prison, par exemple, c'est beau. Ou en prison. maison, ils cherchaient des trucs finis. Maturité sociale, sociale, cette capacité d'aller vers les gens, de bien s'entendre avec eux, de construire des relations durables, par en être dépendant et à cultiver les terres, de trouver un intérêt dans les choses monotones. Alors ça, souvent les gens me disent, mais toi, c'est un nouveau truc. Mais passer le balai, ça peut toujours être nouveau. Et j'insiste bien dans mon bureau, c'est pas ma femme qui vient passer le balai, c'est moi qui vais passer le balai. Hein? Et je crois que dans les choses répétitives, Dieu nous appelle à trouver en fait de l'intérêt. Tout ici sur les barrières sociales, on ne peut pas en fait bien s'entendre avec des gens beaucoup plus pauvres que nous, beaucoup plus riches que nous. Parce qu'on est trop différents. Et donc, j'ai pris comme exemple Barnabas, qui lui a su s'adapter à un Paul, aller vers lui, le recevoir, alors qu'il était contre exécuter les chrétiens. Hein, il a su le présenter aux juifs de Jérusalem. Maturité sociale, aller vers les autres. Maturité spirituelle, vouloir ressembler à Jésus, j'entends dans la part de sa prière, vouloir lui plaire, vouloir méditer et mettre en pratique l'enseignement de Dieu, discerner la volonté de Dieu et manifester les fruits de l'Esprit. Alors voilà, avec ces quatre volets, maturité intellectuelle, émotionnelle, sociale, spirituelle, voilà quelque chose qui doit être un objectif continuellement accessible dans notre existence de tous les jours et aussi dans notre rapport à la vie. On va conclure avec des outils. On peut, quant à la réalité de l'accompagnement, je suis là, je suis en face de quelqu'un, je suis avec quelqu'un, je suis dans la présence de Dieu, on a demandé à Dieu de nous conduire. Et j'ai mis comme premier outil l'écoute et le respect. Qu'est-ce que c'est que l'écoute ? J'ai fait une fiche sur l'écoute que je montrerai mes fiches tout à l'heure. L'écoute, c'est plus qu'entendre quelqu'un. Écouter, c'est être avec quelqu'un et marcher avec lui, avec les matériaux qu'il nous donne, et réagir avec les matériaux qu'il nous donne. Et notre réaction alimentera son discours. Écouter, c'est fatigant. C'est fatigant ce que vous avez en train de faire. Mais c'est finalement agir avec quelqu'un même si on est en silence. Et c'est se donner la possibilité d'interrompre, d'intervenir, de noter, de reprendre. C'est ça l'écoute. Il y a une science qui s'appelle l'écoute active, en anglais active listening. Et l'écoute, c'est beaucoup plus que le simple fait d'entendre. Un des grands pièges de l'écoute, c'est de penser à autre chose pendant que quelqu'un est en train de parler. On se dit, on va parler de quelque chose. Oui, j'entends, et je suis capable en même temps d'entendre et de penser à autre chose. Ça, c'est pas vrai. Écouter quelqu'un, c'est marcher avec lui du même pas. Et le respect lié à l'écoute, parce que si j'entre vraiment dans une belle relation avec quelqu'un, alors je serai capable de vous. Un deuxième outil, c'est l'absence de jugement. C'est aussi difficile que le premier. L'absence de jugement, je dirais, pour poser des bases sur notre discussion, juger l'autre, c'est le rejeter, c'est le condamner, c'est ne pas vouloir l'accueillir au nom de quelque chose, de quelque idée que ce soit. Être lucide sur quelqu'un, ça c'est crucial. Juger l'autre, c'est le rejeter. Être lucide, c'est l'accueillir malgré ce que nous savons, ou l'accueillir eu égard à ce que nous savons. C'est important d'être lucide sur quelqu'un. C'est anormal de rejeter quelqu'un parce que nous sommes lucides sur quelqu'un. Et aimer, c'est ça. Aimer, c'est accueillir l'autre, quel que soit ce que nous voyons chez l'autre. Et c'est ça l'absence de jugement. Alors, à l'époque de l'absence de jugement, l'enseignement biblique est multiple. Par exemple, Matthieu 5 nous dit, Matthieu 7, verset 1, ne jugez pas. Dans la première version, hein? Jacques 1, verset 20, ou 19, je crois que c'est le verset 20. La colère de l'homme ne rend pas complète, n'accomplit pas la justice de Dieu. Autrement dit, je suis lucide sur quelqu'un, mais ce n'est pas moi qui rends justice. Moi, je ne suis pas vengeur, moi, je suis observateur. Et dans un sens, Dieu m'appelle à être en colère, c'est normal d'être en colère. Si je ne suis pas en colère, c'est anormal. On verra dans vos émotions. Mais donc on ne va pas s'y arrêter. C'est pour ça que j'ai dit laisser l'autre responsable devant vous. C'est important. Et souvent, quand je dis aux gens, vous êtes responsable devant vous, et c'est souvent perçu comme du laxisme. Attendez, moi je ne suis pas laxiste. On peut en parler si vous voulez. Mais faites ça, et c'est votre responsabilité. Moi je ne le fais pas. Mais si vous le faites, outil, j'ai donc à fournir des clés. Et justement, à moi de fournir ces clés, j'ai à fournir la réalité de mon expérience. En fait. Les anciens dans l'Église, ce sont ceux qui se sont tellement cassés la figure qu'ils savent là où on se casse la figure. Et ils vont dire, par exemple, tu es un homme qui a 25 ans, alors quand tu as une jeune femme devant toi, écoute, je vais te dire là où je me suis cassé la figure, là où j'ai compris les choses, là où j'ai fini par comprendre quelle est la véritable relation, quelle est la différence entre homme et femme. On verra ça, on sera en mercredi soir, et on en parlera en atelier. La continuité, on en a parlé tout à l'heure, mais je remets dans les outils. Le fait de ne pas avoir de désir sur l'autre, ça c'est très important. Autrement dit, je n'ai pas moi à vouloir que l'autre aille là. Moi, je mets simplement en œuvre ce que Dieu me demande. Je suis en train de dire à l'autre ce que j'ai compris. Donc, je fais ce qui relève de ma responsabilité, mais je ne fais pas ce qui relève de sa responsabilité. Je ne vais pas lui dire, voilà, je vais l'aider à découvrir qu'il a un problème. Faisant, alors il pourra aller là si Dieu lui demande, si la conscience que Dieu lui demande. Mais s'il n'a pas conscience que Dieu lui demande, si moi je le fais aller là, alors je pense typiquement dans ce que dit Romains 14, verset 1, autrement dit, quant à ceux qui sont faibles en foi, Romains 14, verset 1, ne les recevez pas pour la décision de questions. dans ma version de la Bible, c'est une question douteuse. Douteuse, c'est pas bon, c'est entre crochets, c'est pas dans l'original. C'est ne le recevez pas pour décider, ne le recevez pas pour décider à sa place. Voilà le fait de ne pas avoir de désir sur l'autre. Vous voyez, le chemin pour Romains 14, hein, par rapport à cette image. Vérité, authenticité, propriété, ça rejoint la lumière de Dieu, l'intervention de Dieu. Voilà des choses à demander l'intervention de Dieu, comme on le demande d'ailleurs dans cette semaine des commerçants qu'on passe ensemble. Un bon rapport sécurité, créativité. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ce que je disais tout à l'heure dans la généralité. Dans cette semaine, on est dans la sécurité parce qu'on a un programme. Et on est dans la créativité parce qu'on n'est pas lié par le programme. Dans l'entretien pastoral, on est dans la sécurité parce qu'on a un cadre. Un cadre qui est là avec des outils. Et ce cadre, il va être pleinement défini. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Mais si vous adhérez à ce cadre, vous aurez un cadre. Mais le cadre, il peut être une vraie prison. Nous avons, nous, à être dans la créativité, dans la liberté, de faire ce que Dieu nous demande à la vie. Présence, attention, la disponibilité, la vigilance, l'intercession. Voilà l'accent que je veux mettre sur le côté humain de la relation. Qu'est-ce qui est le plus important dans une action? 1 Corinthiens 13, verset 2 et 3, nous dit que le plus important, c'est l'ami. Autrement dit, le plus important dans le temps que nous passons ensemble, c'est quoi? C'est le fait d'être ensemble. Le plus important dans le temps pastoral, c'est le fait d'être ensemble. C'est le fait qu'il y ait de l'ami. C'est le fait qu'il y ait une relation. Et nous les hommes, d'ailleurs, c'est bien, ce matin, on est 3 et 3. Hein? Nous les hommes, nous avons plus de mal que vous les femmes à comprendre l'importance de l'amour. Ce n'est pas anodin, c'est ce fois, qui a parlé de l'importance de l'amour. Comment est-ce que l'amour est là, en fait? Vous les femmes, je pense que vous savez là où est l'amour. Et vous savez l'importance de l'amour. Mais il y a un moment donné, vous risquez de le perdre. Et vous risquez de le perdre par esprit de sacrifice. Souvent. C'est pour ça, à mon avis, dans Philippe 2, verset 4, il faut que les femmes âgées apprennent aux jeunes femmes à aimer leur mari, pas à être des parfaits. À aimer leur mari. Parce qu'en fait, la femme est tellement généreuse, elle est prête à tout. En fait, parce qu'elle est liée dans l'amour. Et on en parlera dans masculin et féminin, ça c'est passionnant comme sujet, et c'est terriblement au centre de nos souffrances relationnelles. Mais nous, dans l'accompagnement pastoral, savoir où être, nous les hommes, on est un peu débourrés. Ouais, excuse-moi, j'en peux rien, mais c'est, je trouve que c'est vrai. C'est qu'on est tellement dans l'action que pour nous, il n'y a que l'action qui compte, mais la relation, c'est quelque chose de très important. Savoir déjà être en relation. Hein? C'est clair, on va rentrer, on est des grands. Hein? Mais par exemple, à la nuit de noces, hein, quelle est la préoccupation de l'homme? Il dit, chérie, est-ce que tu as eu un orgasme? C'est malheureusement ou heureusement, il faut les deux, bien sûr. Mais c'est ça, la difficulté de ce rapport entre action et relation. Et sa femme va lui dire, j'ai été avec toi, c'était merveilleux. Et elle va parler de tout ce qu'elle est, et elle va être contente et comblée. Alors lui, il va être affreusement frustré. Hein, voilà. Et donc, ça, c'est un peu un exemple qui est une belle image de toute la difficulté relationnelle, mais de notre difficulté à nous, hommes, d'être devant quelqu'un et de ne pas se rendre compte que quelqu'un est déjà comblé. Parce que quelqu'un a pu venir, devant quelqu'un qui n'est pas jugé, parler de ces choses, être accueilli, et puis être dans une relation dans laquelle l'amour est ressenti. Magnifique. Et nous, et moi, par exemple, j'ai accompagné quelqu'un quelques mois, et après je l'ai revu, il me dit merci parce que tu m'as fait beaucoup de bien. Il Et donc, là, il apparaît comme une lumière. Et c'est là où il faut que l'on soit bien conscient de la réussite de la présence. Scénario, Genèse 25, 26, dans la vie d'Abraham, Isaac et Jacob, on voit comment il y a une répétition. Abraham est parti en Égypte, il a donné sa femme aux parents. Isaac a donné sa femme à Abimelech, Jacob aussi, etc. Il y a une répétition des choses, il y a des scénarios qui s'installent, et en général, un garçon est fait comme papa, une fille est fait comme maman. Donc, il faut qu'on soit vigilant à savoir. Couper avec ça et permettre à quelqu'un d'en sortir. Les rêves, on en a un peu parlé. La liste de souffrance, on va en parler, comme outil, on va en parler. Et puis à eux, parents avec enfants, c'est l'analyse translationnelle des libernes, on va en parler. Le généogramme, c'est tout l'aspect transgénérationnel et systémique de la thérapie, on va en parler. C'est-à-dire que la pratique pastorale n'empêche pas qu'on connaisse les outils. Bien sûr, on va en parler. La liste d'émotions, on va en parler. La liste des pensées et le chemin de la vie. Peut-être on va surtout pas en parler du chemin de la vie, qui est quelque chose de plus simple. Quand quelqu'un vient me voir, je lui donne une feuille blanche. On vient juste cette feuille-là est blanche. Voilà. Et je lui dis, vous allez tracer deux lignes verticales qui représentent le chemin de votre vie. En bas, c'est votre naissance, et en haut, c'est là où vous êtes arrivé. Et dans le chemin de votre vie, vous allez dire vos bonheurs et vos souffrances. Notamment, toutes les choses que vous reprochez dans la vie. Et dans ces choses que quelqu'un se reproche, on va avoir un regard actuel contemporain. On va dire, par exemple, aujourd'hui, vous reprochez d'avoir fait telle chose à telle personne. Alors, qu'est-ce que l'on fait avec Dieu ? On va parler, et on va éventuellement lire 1 Jean 1, verset 9, qui nous dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, pour nous purifier de toute iniquité. Donc en fait, là, on va avoir l'iniquité, péché, et on va dire, mais puisqu'on est pardonné et purifié, on va mettre du blanco. Et à un moment donné, on va vraiment réaliser que le chemin de ma vie a été perdu. Alors Charles, je te propose d'arrêter l'enregistrement maintenant et on va...